Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse, le premier de 2023. C'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Corsica Radio, le meilleur pour cette nouvelle année. M'accompagne cette semaine pour une reprise en fanfare, Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour Caroline.
Laurent Dominati, diplomate, homme de médias, directeur du site lesfrançais.presse et président de l'association Sauver la Méditerranée. Bonjour Laurent Dominati.
Bonjour.
Et nous saluons François Casasoprane qui nous rejoindra la semaine prochaine. Dans l'actualité cette semaine, messieurs, la mobilisation sociale du 19 janvier. Petite précision d'importance, nous avons enregistré cette émission mardi, donc il nous sera impossible de dire si l'appel à la grève a été suivi en nombre, mais nous pouvons néanmoins débattre sur le fond. Fonction publique, éducation nationale, transport, énergie, hôpitaux, les syndicats des différents secteurs sont montés au créneau afin de protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement Borne. Quelques précisions. Le 10 janvier dernier, la Première ministre, les ministres en charge de l'économie, du travail et de la fonction publique ont détaillé le contenu de la réforme des retraites qui sera discutée au Parlement en février pour une mise en application à partir du 1er septembre 2023. Les grandes lignes pour le régime général. L'âge légal de départ à la retraite est fixé à 64 ans à partir de 2030, contre 62 ans actuellement. Dans le même temps, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans dès 2027. Pour financer le régime des retraites, une contribution va être demandée aux entreprises qui sera compensée par une baisse de leur cotisation au régime des accidents du travail, qui est actuellement bénéficiaire. En 2030, ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront continuer à partir à la retraite à 58 ans. Ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront partir à 60 ans et ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans à 62 ans. Le dispositif carrière longue va intégrer les interruptions de carrière pour élever des enfants. Le projet du gouvernement comprend également un volet consacré à la prise en compte de la pénibilité. J'espère que vous avez pris des notes. Hein, on est un peu chez le comptable. De manière plus politique et plus transversale, ça c'est pour le régime général. Messieurs, une première réaction, Laurent Dominati.
Première réaction, le président Macron va faire sa deuxième réforme des retraites, puisque je vous rappelle qu'il y en a déjà une qui a été votée, mais non appliquée. Elle avait été votée après des manifestations, après une longue bataille à l'Assemblée nationale. Et pardonnez-moi, mais je crois qu'elle était meilleure que celle-ci. Je crois qu'elle était meilleure parce qu'elle se voulait, j'allais dire, un peu plus fine. Elle augmentait, elle allait vers un système de régime à points qui est le régime suédois et qui est en réalité un régime où vous choisissez, où la responsabilité incombe plus à celui qui prend sa retraite. Vous avez un point, d'ailleurs c'est le système des retraites complémentaires, et donc c'était une réforme qui avait pour elle l'avantage de un peu d'innovation, même si c'est un système qu'on connaît très bien en Europe, puisqu'encore une fois c'est le système suédois. C'est le système d'ailleurs qu'avait étudié Jean-Pierre Raffarin en accord avec la CFDT du temps de Jacques Chirac, et je trouvais pour ma part que c'était, alors il y a toujours des imperfections, il y a toujours des injustices, il y a toujours des choses qui ne vont pas, bien sûr, mais l'idée était à mon sens plus originale et plus porteuse d'avenir. Celle-ci, elle est nécessaire, c'est une évidence, elle est nécessaire du point de vue comptable, du point de vue de l'espérance de vie, du point de vue de la population française, de la démocratie française et de la population active. Bon, ben voilà, elle est nécessaire, mais je dirais, elle est pas bête et méchante, parce qu'elle n'est ni bête ni méchante, mais elle est un peu automatique. Bon, ben, il y a trois façons de rembourser le régime de retraite. Ou vous augmentez les cotisations, ben, les entreprises sont déjà un taux de prélèvement excessif par rapport à tous nos concurrents, par rapport à tous les pays, ou bien vous augmentez l'âge de la retraite, c'est ce qui est fait, ou bien vous diminuez les pensions, c'est ce qui est fait aussi d'ailleurs par l'inflation, mais enfin, c'est une autre méthode qui est un peu plus basse, alors là, vraiment méchante. Donc voilà, on augmente l'âge de la retraite, c'est pas très inventif, mais c'est ce qu'on fait à peu près tous les pays. Je signale qu'en Europe, avec une retraite à 64 ans, même 65 ans, nous serons toujours le pays, je crois, d'Europe où nous prendrons notre retraite plus tôt. Voilà, tous les pays repoussent, y compris l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin tous, la Belgique, les Pays-Bas. Je crois qu'il y a un pays, ça va être la Tchéquie, où c'est un peu moins important qu'ailleurs, ou la Slovénie, je ne sais plus lequel exactement. Mais enfin, d'une façon générale, même avec cette retraite, nous prendrons notre retraite plutôt que les autres. Et donc c'est plutôt, voilà, ben, il faut le faire, c'est pas sympathique, mais enfin j'espère que le gouvernement le fera vraiment. Et puis je voudrais quand même rappeler quelque chose d'optimiste pour la Corse et les Corses. Eh bien, c'est comme c'est en Corse que l'on vit le plus vieux en Europe, c'est toujours en Corse que l'on prendra sa retraite le plus longtemps et le plus agréablement.
Magnifique. Michel Barra.
Oh, mais écoutez, je pourrais reprendre mot à mot ce qui vient d'être dit. La première réforme, ou plutôt qui a été votée mais qui n'a jamais été mise en place, était une vraie réforme, puisqu'elle réformait les structures des choses. Elle avait une difficulté, je dirais technique, c'était comment passer à une retraite à points pour la fonction publique et les fonctionnaires, ce qui impliquait nécessairement une hausse des salaires de la fonction publique pour que les retraites soient bonnes. C'était ça la difficulté, là. Mais c'était la meilleure. C'était la meilleure, c'était une vraie réforme, et elle avait en plus le mérite d'avoir l'appui de l'un des syndicats. Ça n'a pas été possible, quelles qu'en soient les raisons. Alors maintenant, dans la réalité d'aujourd'hui, ben c'est quand même très simple. On ne peut pas faire un déni de réalité. Aujourd'hui, il existe un actif, 1,7 pour un retraité, et nous sommes dans un système de répartition. Petite remarque, si vous demandez aux Français ce que c'est que la retraite par répartition, ils ne savent pas. Ils croient que leurs cotisations, c'est des cotisations d'assurance, ce qui est faux. Notre système de retraite, ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités. Nous, quand je travaillais, je payais la retraite pour ceux qui étaient à la retraite. Aujourd'hui, c'est ceux qui travaillent qui payent ma retraite. C'est un système de solidarité nationale. C'est l'originalité du pays. On pourrait même d'ailleurs se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas introduire, comme certains pays du Nord, une partie qui soit par capitalisation. Bien C'est-à-dire sûr. Avoir du 80% par répartition, surtout pour les petits salaires. Parce que s'il n'y avait pas de répartition, quand ils disent que ce n'est pas juste, c'est grâce à la retraite par répartition qu'il y a quand même des retraites, fût-elles insuffisantes, pour les petits salaires. Donc c'est pas si mal. Maintenant, si on ne le faisait pas, ça deviendrait impossible à payer. Et il y aurait une grande injustice qui aurait plus de retraite pour le futur.
Mais ça existe déjà, Michel, cette espèce de double système. Elle coexiste avec une retraite complémentaire que les plus aisés peuvent faire de manière privée.
Non, on peut avoir une retraite en plus par du complémentaire ou par le biais des assurances-vie. Mais attendez. Les syndicats qui montent contre la retraite par capitalisation, qui alors, si on leur parle de ce mot-là, ça ne sera pas la manifestation de mardi.
Jeudi.
Si jamais je prononce ça, ils vont me couper l'électricité à mon domicile. Hein. Bon, il y a qu'un type qui oublie de choses. Elle existe pour la fonction publique.
L'après-fonds.
Ça s'appelle l'après-fonds. Elle est gérée par les syndicats qui ont mis en place un système par capitalisation qui, au point de départ, d'ailleurs, n'a pas très bien marché, mais qui, aujourd'hui, a 450 000 adhérents et qui fonctionne maintenant bien et qui permet réellement d'améliorer les retraites des fonctionnaires. Première remarque. Deuxième remarque, moi, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Faut-il parler aujourd'hui de la retraite ? Nous avons un allongement du temps de la vie. Heureusement, faudrait-il pas parler plutôt du travail, c'est-à-dire des conditions de travail, et en particulier de l'emploi des seniors. Le vrai problème qui va se poser, c'est la fin, la mise à la retraite de personnes qui sont encore actives. Alors peut-être que sur l'âge de départ à la retraite, peut-être qu'il faudrait... peut-être mettre une possibilité de partir à la retraite à 64 ans. Mais après tout, selon le métier que l'on fait, on peut continuer. Je vais donner un exemple. Je suis toujours capable de faire un cours d'université de philosophie. La personne qui manie le marteau-piqueur, il y a longtemps qu'il serait dans l'incapacité de le faire. Donc le problème, c'est d'être plus à la carte. Ça s'appelle être libéral, de dire ça, mais bon, au bon sens du terme. Et responsable, c'est-à-dire donner la responsabilité à avoir avec une compensation pour un certain nombre de personnes. Et puis alors, j'ai été frappé d'une chose où j'ai entendu une énormité dans les opposants. C'est le coordonnateur, il n'est pas coordinateur, il est coordonnateur, ordonnateur, on ordonne, de la France insoumise, M. Bompard, qui a dit 25% des Français, qui sont les plus pauvres, ne vont pas jusqu'à meurent avant 62 ans, ce qui est vrai. C'est pas parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des gens dont les revenus sont à 400, entre 400 et 500 euros. C'est-à-dire de la précarité absolue. Que l'État s'occupe de ces gens et fasse en sorte qu'ils aient des revenus plus élevés, qu'on combatte la précarité de manière à ce qu'ils vivent beaucoup mieux et plus longtemps, on va tous être d'accord. Mais qu'on ne dise pas... En fait, vous connaissez la chanson... d'Henri Salvador, le travail c'est la santé. Il ne faut pas aller plus loin. C'est pas rien faire qu'elle a conservé. Il faudrait calculer le taux des personnes qui, prenant leur retraite, meurent dans les premières années de la retraite. Parce que la retraite tue aussi.
Laurent Dominati, est-ce que cette réforme a été suffisamment discutée, concertée
Trop.
Trop.
Trop. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça fait depuis Rocard qu'on parle des retraites. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait dans tous les pays du monde. En Suisse, ils ont voté, il y a deux mois ou trois mois, ils ont passé la retraite des femmes à 65 ans comme celle des hommes. Voilà l'égalitarisme entre les femmes et les hommes. Les femmes avaient droit à un amendement. Ils l'ont passé, ça a duré un mois et demi de débat, un vote populaire... Et les Suisses ont voté par référendum, comme ils le font à peu près tous les trois mois sur tous les sujets de la Terre, parce que c'est une démocratie très élaborée et très responsable. Eh bien, ils ont repoussé en un mois et demi de débat. Bon, toutes ces données-là, on les connaît depuis toujours. Il n'y a pas... Alors, à chaque fois, on fait la concertation. Je me souviens que Emmanuel Macron avait nommé un ministre spécial... comment il s'appelait j'ai oublié son nom. L'ancien président du Conseil économique et social, qui est chargé de la concertation, et des maires. Donc, ils s'y connaissaient. Bon, ensuite, on n'arrête pas de faire la concertation. De toute façon, on sait très bien que ça ne sert à rien. Que de toute façon, les syndicats, pour exister, seront obligés de dire mobilisation générale. 3 jours, et puis après, on partira. Bon, on sait déjà, ça va être la mobilisation générale. Petite question quand même. Les syndicats, là, pourquoi ils mobilisent? Parce que s'ils ne mobilisaient pas, ils n'existeraient plus. Vous avez vu la dernière grève, là, pour le départ en vacances à SNCF? 400 personnes, hors syndicat. Ça veut dire que les syndicats n'ont pas décidé de la grève. Il y a 400 personnes par Facebook qui l'ont organisée eux-mêmes. Le problème des syndicats, comme des partis politiques, c'est qu'ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la vie sociale, ils sont déconnectés de la vie réelle. Ce sont des organisations qui sont un peu hors sol, comme un peu partout d'ailleurs. Il n'y a pas que des syndicats, ce n'est pas une attaque contre les syndicats. C'est un constat que je fais. La vie n'est plus dans les partis, la vie n'est plus dans les syndicats, la vie n'est plus dans les organisations qu'on avait d'habitude.
Est-ce qu'il y a déjà une réforme des syndicats, de la structure des institutions syndicales?
Je ne crois pas qu'il y ait eu de réforme des structures syndicales. Je crois qu'ils n'en veulent pas. Je crois qu'il faut... Mais c'est une question fondamentale, parce que les syndicats en France, ils sont, comment dirais-je, para-étatiques. Ça veut dire qu'une grande partie des employés syndicaux, des permanents du syndicat, sont pris sur la fonction publique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont encore forts dans la fonction publique et pas ailleurs. Deuxièmement, les syndicats sont riches. Ça veut dire qu'ils gèrent des organismes paritaires, notamment dans l'assurance, où ce sont eux les gestionnaires. Ce ne sont pas des capitalistes, enfin, ce sont eux les patrons. Hein.
Ils gèrent aussi la formation continue.
Ils gèrent aussi la formation continue.
Donc, ce sont de gros flux financiers.
Je dirais qu'ils s'apparentent presque plus. Alors, alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais nulle part. Mais ils s'apparentent plus à des sortes de chambres de commerce qu'à des syndicats. Parce qu'ils vivent sur des systèmes législatifs qui leur assurent des rentrées, des revenus, et donc un organigramme, et donc des permanents, et donc des luttes internes pour être le patron. C'est ce qui se passe à CGT, c'est ce qui s'était passé avant dans d'autres syndicats. Et donc là, et donc non, il n'y a pas de réforme de fond, mais elle n'est pas facile à faire. Hein, oui, parce que faut quand même trouver un autre système, parce qu'il faut des corps intermédiaires. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de partis, il n'y a plus de syndicats, et on ne sait plus à qui parler, en réalité, quand vous êtes au gouvernement. J'allais dire, parfois, il n'y a pas de gouvernement non plus, mais enfin, c'est aussi... Je veux dire, c'est un problème, c'est que vous ne savez pas avec qui négocier. Et ça, ce n'est pas bon dans une société.
Michel. Alors, aussi, autre problème avec les syndicats, quel est leur degré de représentativité ? En fait, la présence syndicale, elle est surtout dans la fonction publique, on sait pourquoi. C'est, vu les garanties statutaires qu'il y a des fonctionnaires, pas de problème si on est syndiqué. En plus, effectivement, c'est quasiment une sorte de fonctionnariat bis. Dans l'efficacité pour nuire, vous savez, moi, j'ai une conception qui est curieuse du monde syndical et de leur notion du service public. J'ai l'impression que pour eux, c'est le public qui est au service des syndicats. C'est quand même assez extraordinaire. Le service public, c'est l'intérêt général. Quand j'ai entendu, quand même, le représentant de la CGT Énergie dire « on va aller voir dans leur permanence les députés qui sont prêts à voter cette réforme, et s'ils insistent, on fera des coupures ciblées pour aller couper l'électricité chez eux », ça s'appelle quoi, ça ? Non mais ça s'appelle un pouvoir totalitaire, voire fascisant. Appelons les choses par leur nom. Le pire, c'est qu'ils l'ont déjà fait.
Ah oui.
Je sais que, là, heureusement, FO et la CFDT ont dit non, parce que c'est illégal. Mais nous arrivons à quoi ? Deuxièmement, c'est la fonction publique qui fait grève. Ou des grandes structures qui sont quasiment, comme la fonction publique, c'est l'énergie, c'est les grandes raffineries, etc. Et dans les raffineries, vous avez quoi quand vous avez eu la grève des raffineries ? C'est une dizaine de personnes qui bloquaient les raffineries. Donc on a vraiment ici un problème d'une logique du blocage qui nous revient d'une vision marxiste des problèmes du travail. Et en plus, d'un Karl Marx qui n'est pas ce que dit Karl Marx dans ses livres, de gens qui n'ont jamais lu Karl Marx, mais qui ont lu les secrétaires généraux du Parti communiste français, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on a quand même une énorme difficulté. Et après tout, si on arrive à des échanges, une logique de concertation dans les autres pays où il y a des syndicats forts, prenons l'Allemagne. Mais le propre de l'Allemagne, d'ailleurs, quand une grève, ils l'ont fait là, dernièrement. Une grève en Allemagne, c'est sérieux, hein, c'est rare, mais la grève, elle est là. Hein.
Mais ce n'est pas trois jours, oui.
Ce n'est pas trois jours,
c'est beaucoup plus long.
C'est beaucoup plus long.
C'est beaucoup plus difficile.
Mais les syndicats sont bien des puissances de négociation. Alors nous, finalement, nos syndicats ne sont que, comme dans le vieux temps, des courroies de transmission de partis politiques déchus. Et donc, ils sont tout aussi déchus que les partis politiques.
Ils sont tout aussi déchus que les partis politiques, et ça pose quand même un problème. Je me souviens, au Conseil de l'Europe, quand j'étais représentant de la France, il y avait, et ambassadeur, il y avait un secrétaire général qui était norvégien. Et moi, j'en avais marre parce qu'il y a une commission spéciale au Conseil de l'Europe sur le droit du travail. La France a tout signé, et c'est la France qui est la plus condamnée. Et j'avais été voir pour défendre mon pays, évidemment, c'était mon rôle, en disant, écoutez, vous exagérez, parce que quand on regarde les lois sociales ici et là, en France, elles sont plus importantes qu'en Pologne, qu'en Italie, en Italie, ils ont aussi...
Moins que nous.
Il y a quand même... la couverture sociale et les lois sociales en France, on est vraiment très, très en pointe.
Elle est plus forte que l'italienne.
Plus forte que l'italienne, puis l'ASM. Et donc, j'avais négocié tout ça, Et pour me moquer un peu de la Norvège, toujours citée en exemple, pays richissime, pays toujours propre sur lui, etc., j'avais dit au secrétaire général de l'époque, j'ai dit, évidemment, toi, Norvège, vous n'êtes jamais condamné. Et il m'a regardé, il m'a dit, si, si. On a été condamné une fois C'est le syndicat des pêcheurs qui avait porté plainte. Et la Norvège était condamnée. Je dis, ah, quand même, tu me donneras l'arrêt parce qu'au moins je citerai le syndicat des pêcheurs qui a réussi à faire condamner le gouvernement. C'était l'ancien Premier ministre. Il me dit, oui, enfin, on avait été condamné parce qu'on avait diminué le temps de travail et ils ne voulaient pas. Voilà, une petite anecdote pour la Norvège. Ils considéraient que c'était leur responsabilité. S'ils voulaient travailler plus, de travailler plus. Je me suis dit, c'est désespérant. Tout ça est désespérant, on n'y arrivera jamais. Voilà pour la petite histoire.
Oui, mais Michel a raison. Quelque chose d'important. Et finalement, le syndicat des pêcheurs avait peut-être raison.
Bah, il avait très certainement raison.
Parce que le travail, c'est la vie.
Et puis, il ne voulait pas être dans la réglementation imposée par le gouvernement. Il voulait s'autogérer et il voulait dire, bah, nous, on travaille en toute concurrence. Les pêcheurs, ils ont tel droit. Mais si, après tout, c'est à nous de nous organiser. C'est un principe beaucoup plus ferme. Et je pense que... Mais ça va être difficile de réformer le syndicat, vous savez, parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui sont prises. Et puis surtout, beaucoup d'intérêts davantage. Hein. Faut pas être aveugle. Hein. Faut pas être aveugle. Voilà. Mais est-ce que la réforme passera? Oui, je pense qu'elle passera parce que les Français sont. Je crois qu'ils sont plutôt. Ils sont pas d'accord quand vous leur demandez par sondage. Ils sont pas d'accord parce que l'idée de travailler un peu plus, ça fait forcément plaisir à personne. Mais sur le fond, ils ont bien compris, je crois.
Ça dépend un peu de la question qu'on va poser. Si vous demandez aux Français, au lieu de prendre votre retraite à 62 ans, vous allez la prendre à 64, vous allez avoir 85% qui vont dire non. Si vous leur posez la question, est-ce qu'il faut baisser les pensions ou augmenter les cotisations, ils vont répondre oui. Donc en quelque sorte, il y a une sorte de rupture entre ce qu'est le collectif par rapport à l'individuel. Là, on touche de la société contemporaine, où nous sommes devenus une société totalement individualiste et consommatrice, et non plus citoyenne. Et là, on touche le vrai fond. Et le vrai libéralisme, lui, serait collectif.
Oui, le vrai libéralisme serait collectif. Et là, on a aussi un problème, c'est que la grève de la SNCF, 400 personnes, comme la grève qui a eu lieu avant... Que Michel Barras, Fenry, par la CGT, c'est combien de personnes? Je trouve que là, il y a effectivement que si peu de monde puisse avoir autant d'impact sur des millions de gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, d'ailleurs, peu importe, c'est quand même un vrai problème. Ça veut dire faire passer un intérêt, alors vraiment personnel et particulier, au-delà de l'intérêt général. C'est l'inverse même de l'essence du collectif. Et je crois aussi qu'il y a une tare, là, du point de vue des pouvoirs publics. C'est que ça n'est pas d'aujourd'hui que 400 personnes peuvent bloquer le système des transports ou le système des raffineries. Et je ne comprends pas, dans une situation où il y a une guerre à nos portes, où il y a une crise du pétrole, crise de l'énergie, qu'on ne prévoit pas ce type de crise. Ça veut dire qu'après tout... On sait qu'il y a des risques de grève, qu'il y a des risques de blocage, qu'il y a des risques... Eh bien, normalement, un pays moderne, intelligent, prévoyant, doit se dire, ben, si on bloque ceci, ben, on fait cela. Si on bloque les trains, on se déplace. Je ne comprends pas ce fait qu'on laisse les choses dans le même état, en gros, qu'il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Voilà.
Je suis encore ferme, plus mal voir que toi. C'est difficile, hein, mais on va y aller quand même. En Allemagne, les fonctionnaires d'État n'ont pas le droit de grève.
Moi, je ne suis pas pour interdire le droit de grève aux fonctionnaires.
Moi non plus.
Je dis que l'État doit prévoir le fait que...
Là, j'étais provocateur, bien entendu.
Oui, quand une entreprise, il y a une grève... Enfin, je ne sais pas si j'ai une entreprise comme la SNCF ou comme tant d'autres qui sont...
Qui est nationalisée.
Qui, en plus, est nationalisée, mais même pas nationalisée. Si je suis patron d'une boîte privée, je ne me mets pas sous la menace de 1% de mon personnel.
Bah oui.
De mon personnel ou de mon directeur. Si j'ai un directeur qui, si jamais il est malade, toute l'entreprise s'arrête, je change de directeur ou j'en prends trois. J'ai du mal à comprendre cela. Voilà. J'ai du mal qu'un système intelligent, moderne du 21e siècle puisse reposer sur le fait que 400 personnes aillent au travail ou non. Ça me semble aberrant. Voilà.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, si vous le voulez bien, où on aura les chiffres de la mobilisation.
Il y aura du monde.
Et il y aura du monde. Allez, autre sujet dans l'actualité, cette fois-ci 100% insulaire, quoique. C'est la grand-messe Fais-moi Gorsica qui a eu lieu ce week-end à Corte, près de 500 personnes pour débattre d'une année qualifiée de charnière et s'accorder sur des propositions sur l'autonomie d'ici fin 2023. Alors, fin 2023, ça fait un peu loin, non, Michel Barras?
Oui, ça fait loin, mais
Pour une proposition qui était attendue fin 2022 par Darmanin, par Gérard Darmanin.
À partir du moment où on n'a pas défini ce que c'est l'autonomie, je pense que 2023 n'est pas encore assez loin. Mais de quoi on parle ? Alors, de deux choses. Nous, on parle d'autonomie et on dit c'est tout, sauf les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire battre, mener, déclarer la guerre et rendre justice. Imagine-t-on la Corse gérer la sécurité sociale, gérer directement les hôpitaux, et on peut multiplier. Donc on prend le problème à l'envers. Qu'est-ce qui est possible de gérer en Corse ? Et s'il y a quelque chose qui est possible de gérer en Corse, il faut le gérer en Corse. C'est d'ailleurs ça la démarche d'Armanin, c'est de dire... Bon, maintenant, il ne faudrait pas être dans la carrière. Ils prennent un modèle qui est soit le modèle polynésien, c'est plus le modèle polynésien que ou le modèle néo-calédonien. Vous connaissez la chanson la plus populaire de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie ? Ben, je vais vous la donner. Elle est sur toutes les ondes de radio, y compris chez les Kanaks, en Calédonie, c'est la France qui paye. C'est-à-dire, je vais être autonome, je vais faire ce que je veux, mais quand j'ai un trou, je vais faire appel à l'État. Si on veut être autonome, il faut être responsable. Première remarque. Donc, un discours sur l'autonomie, c'est d'abord un discours sur la responsabilité des gens autonomes, sur la responsabilité politique, sur la bonne responsabilité gestionnaire.
Mais est-ce que vous avez senti une vision, une envie, un élan ?
Oui, mais il y a un élan. Alors, dans le discours de Gilles Simeone, qui n'est pas un personnage désagréable, d'ailleurs, loin de là, loin de là. Je l'ai relu avant de venir ici. J'avais une sorte de discours à la D'Annunzio, c'est-à-dire un discours romantique. Fait-on de la politique d'une manière romantique ? À chaque fois que des romantiques ont fait de la politique, ça s'est très mal terminé en Allemagne et en Italie. Je vais simplement dire ça. Dans son discours à l'Assemblée de Corse, qu'est-ce qu'on a appris ? Bon, on a appris autonomie. Et d'ailleurs, c'est normal qu'il le dise, et c'est même presque son métier de le dire. Il crée dans son discours un nouveau héros de bande dessinée, de héros tragique de bande dessinée, avec la personne d'Ivan Colonna. Il a quand même dit qu'il faut rendre à Ivan Colonna ce qu'il a donné pour la Corse. L'assassinat d'Ivan Colonna est un scandale d'État, parce que c'est un scandale au sein d'une prison. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de sanction au plus haut niveau de la pénitentiaire, parce que c'est effectivement scandaleux. C'est ce qu'a dit Laurent Marcangeli, d'ailleurs, là-dessus, c'est un des points positifs.
On va y revenir.
Qu'il a dit... qu'est-ce qui a dysfonctionné réellement ? Il faut le savoir et il faut modifier là-dessus. Ça, c'est un point où Laurent Marcangeli a raison. Mais peut-on faire d'Ivan Colonna un héros positif ? Moi, je pose une question. Moi, la réponse est non, dans ma bouche. De dire qu'il est honteux que cet homme se soit fait assassiner dans les prisons, bien entendu. Mais voilà. Alors, quel est le contenu de ce qui a été dit ? Alors, pourquoi pas de l'autonomie ? Mais il faut prendre le problème à l'envers. Il faut dire, où sommes-nous capables, en Corse, d'être des responsables des affaires ? Mais si je suis responsable des affaires, je ne vais pas aller, comme le fait la Nouvelle-Calédonie, dont le système de retraite est en faillite, combien ? Ou comme le fait la société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie, on est en faillite, on est en cessation de paiement, il faut que l'État français paye. Et je continuerai comme ça. Donc ça implique d'ailleurs des glissements, des réformes financières sur la Corse. Ça implique des glissements qui peuvent être progressifs que pour donner des responsabilités. Une autonomie brutale en Corse, c'est la faillite de tous les systèmes qui existent. Une autonomie réfléchie, mise en place, avec des mises en place de progrès et de responsabilités progressives, dans les domaines où on est capable, c'est peut-être une solution de développement pour la Corse.
Laurent Dominati.
Oui, je suis d'accord tout à fait avec Michel Barral. L'autonomie, en fait, pour moi, ce n'est pas un problème. Ça dépend ce qu'on met dedans, mais on va se répéter depuis longtemps. Ce qui est un peu étonnant, c'est que pour l'instant, on ne le sait pas. Bon, voilà, moi, ça ne m'a jamais effrayé. J'étais député de Paris et j'avais écrit dans Le Parisien que l'autonomie pour la Corse ne me faisait pas peur. L'indépendance, en revanche, ça, ce serait une catastrophe. Et je vais y venir, d'ailleurs, parce qu'à ce congrès de Fémo Corsica, ce n'est pas les phrases sur l'autonomie, de plein droit et de plein exercice, on ne sait toujours pas ce que c'est, dire plein droit et plein exercice, ça n'a jamais été appliqué au droit constitutionnel et politique. C'est une notion de responsabilité de droit pénal. Donc on ne sait pas ce que c'est que l'autonomie de plein droit et de plein exercice. Ça ne peut pas dire grand-chose. Mais enfin, peut-être que l'année permettra de dire ce qu'il en est sur les questions non seulement réglementaires, c'est-à-dire normatives, mais aussi sur les questions effectivement qui intéressent la solidarité nationale, qui vont du prix de l'électricité, où les Corses payent, je crois, 200 euros par mégawattheure. EDF produit à 200 euros et on paye 110 parce qu'il y a une solidarité nationale, une péréquation. Même chose pour la sécurité sociale, même chose pour la médecine, même chose pour l'hôpital, etc. Tout ça, on peut gérer. Hein. Je veux dire, on peut tout à fait gérer l'électricité, l'hôpital et tout ça. Il faut quand même un petit capital de départ parce que sinon, ce ne serait pas une bonne chose pour la Corse. Or, moi, je suis sincère, je pense qu'on peut gérer les choses ici, mais il faut construire. Il faut construire, effectivement, être responsable. Ce qui m'a le plus intéressé dans la convention de Fémo Corsica, c'est deux choses. Premièrement, 500 personnes. Quand je disais que les syndicats n'étaient plus des organisations qui savaient rassembler, Fémo Corsica est le premier parti de Corse, de très loin, plus que tous les autres, plus que le Parti radical, plus que LR, plus que le Parti d'Angelini et les autres. 500, c'est pas beaucoup.
Ah non ?
Je veux dire par là, je ne me moque pas du tout. Hein. Je pense que c'est un problème. Parce qu'en réalité, à 500, vous n'avez pas de vrai débat. Vous n'avez pas de vraie tendance, vous n'avez pas de vraie discussion. Vous avez des applaudissements et une solidarité exprimée vis-à-vis du patron, qui est Gilles Siméon, qui
joue son rôle. Est-ce qu'on cherche du débat ? Voilà. Hein ? Est-ce qu'on en cherche du débat ?
Alors, je vais vous dire, il y est, mais il n'est pas. Il y est, et où il est ? Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette convention, de ce congrès, ou je ne sais pas comment ?
L'Assemblée générale.
L'Assemblée générale. Bon, on retient les menaces. Gilles Siméon, pour la première fois à l'Assemblée, comme lors de cette Assemblée générale, a parlé des menaces. Et il a reçu ce qui est la moindre des choses, la solidarité de tout le monde. Et c'est bien évident. Parce que tout de même, c'est grave, non ? Qu'un homme politique soit menacé, c'est pas la première fois. Moi, j'étais menacé. J'ai accordé l'importance que je devais lui apporter, c'est-à-dire aucune. T'es menacé de mort, ben, très bien, ça arrive, parce qu'il y a des fous partout. Et quand je dis des fous, c'est pour être poli, parce que c'est plutôt des cons et des connards, voilà. Je l'ai dit, pardon, c'est unique, mais voilà. Donc, il ne faut pas non plus accorder toute l'importance. Mais ici, c'est un autre sens. Ici, c'est un autre sens. Parce qu'on sait à quel point la criminalité organisée ou désorganisée a des antennes partout, y compris dans les mouvements politiques. Et on sait qu'à Corté, justement, là où se tenait l'Assemblée générale, il y a un restaurant brûlé qui appartient au fils de Gilles Siméon. Donc les menaces ne sont pas à prendre à la légère. Et elles indiquent quelque chose de fondamental. Il n'est pas menacé parce qu'il n'a pas donné un permis de construire. Il n'est pas menacé parce qu'il n'a pas voulu donner un marché public. Il n'a pas... Enfin, je ne pense pas. Il est menacé pour des raisons qui sont des raisons politiques et d'intérêts liés à la politique. Ça, c'est grave. Et ça augure justement d'un débat qui n'est pas seulement un débat, mais un divorce politique entre certaines forces qui, hier, étaient alliées. Ça a une importance.
Et dans ces conditions,
c'est le point politique fondamental de l'année 2023 comme charnière. Elle n'est pas charnière tant avec le gouvernement. Enfin, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tant ça qui compte. Est-ce qu'on voit à nouveau des maisons brûlées ?
La réponse est oui.
La réponse est oui. Est-ce qu'on voit des menaces s'exercer sur des hommes politiques ? Parce que, je vais vous dire, si ça s'exerce sur Gilles Siméon, qui n'est quand même pas n'importe qui, et qui a beaucoup d'amis, alors peut-être que ça s'exerce sur d'autres. Et là, je dis, il y a une question politique qui vient peut-être justement de l'étouffement du débat et du fait qu'il n'y ait pas une parole libérée et franche. On est d'accord sur quoi ? On n'est pas d'accord sur quoi ? À la fin, dans une démocratie, après tout, le peuple tranche. Vous voulez l'indépendance, vous voulez l'autonomie pour l'hôpital, vous voulez l'autonomie pour les transports. On peut voter aussi. Les Suisses, encore une fois, le font à peu près tous les 3 mois. On pourrait être des Suisses. Nous avons, nous, inventé la première constitution européenne écrite. C'est ce que disent les nationalistes, ils n'ont pas tort. On a été en avance. Paoli était un héros européen fêté partout. Donc on peut très bien, cette petite île qui, disait Rousseau, étonnera le monde, on peut à nouveau étonner. Et on peut étonner par d'autres moyens et des méthodes sur des enjeux aussi importants que des menaces en sous-main, par en dessous, etc.
Mais dans ces conditions...
Voilà, je dis quel est, pour moi, le phénomène important de cette Assemblée générale.
D'accord, mais dans ces conditions, comment reprendre sereinement le dialogue avec Paris ? Paris ne peut pas l'ignorer.
Alors, moi, je pense qu'on s'est gorgé de mots et on a fait une erreur fondamentale qu'a souligné Michel Barrat. On a expliqué que les prisonniers étaient des prisonniers politiques. C'est faux, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Et on s'est mis dans une impasse absurde où on est suspendu, même le gouvernement, à la décision de justice qui aura lieu à la fin janvier pour savoir si les deux co-complices ou co-assassins, ou, je ne sais pas dire, enfin les deux condamnés du commando Erignac seront en semi-liberté ou non. Comment peut-on mettre l'avenir de la Corse et des relations entre le gouvernement et les politiques corses sur une décision de justice en faisant une pression sur le gouvernement comme si c'était le gouvernement qui allait dire au juste ce qu'il devait faire. Alors à ce moment-là, c'est plus une démocratie, plus une république. On s'est mis soi-même en se gargarisant de mots sur tout ce qu'on dit, sur le nationalisme. Moi, je ne suis pas nationaliste. Je regarde, je trouve que Gilles Simon a agi de façon très responsable en engageant ce dialogue avec le gouvernement, très très responsable, et donc je trouve qu'il est très sage dans ce domaine-là. Ensuite, on verra l'aboutissement. Moi, je ne donne pas de chèque en blanc à personne, ni au gouvernement, ni à lui, ni à personne. Mais là, on s'est enfermé soi-même. Et donc, l'Assemblée votant des motions, après une sorte d'insurrection qui faisait penser à la brésilienne ou à la prise du Capitole, mais avec des complicités quand même. Bon, voilà. Donc,
comme au
Brésil. Bon, on se tire de soi-même une balle dans le pied. Pourquoi la Corse, les Corses devraient attendre une décision d'appel ou d'appel concernant deux personnes qui ont participé à la scène d'un préfet, pour savoir si on va aller en avant ou en arrière. Je sais pas. Moi, je trouve pas que c'est le problème numéro 1 de l'accord. Je l'ai toujours dit à cette antenne. Je persiste.
Alors, Michel, avant que vous ne réagissiez, Michel, je rappelle juste l'autre événement politique de cette rentrée. C'est la prise de parole du député de la Corse du Sud, Laurent Marcangeli. Il alerte sur l'équilibre particulièrement fragile à l'approche de la date anniversaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac, le 6 février 1998. Ça fera 25 ans. Avant cela, la justice décidera de l'éventuelle remise en liberté de Pierre Alessandre et Alain Ferrand le 31 janvier. Par ailleurs, la commission parlementaire entamera ses travaux cette semaine, présidée par Jean-Félix Acquavive. Laurent Marcangeli en sera le rapporteur. 18 semaines d'enquête et des conclusions attendues pour ce printemps. Michel, vous avez la parole.
Oui, mais je trouve qu'on marche sur la tête. D'habitude, quand il y a des difficultés, elles sont quoi avec la justice ? C'est dire que la justice n'est pas indépendante du pouvoir politique. Et là, on dit qu'on n'est plus en démocratie, on n'est plus en république, ce qui est parfaitement vrai, quelles que soient les critiques qu'on peut faire à l'institution judiciaire. Là, on est dans l'inverse. C'est le pouvoir politique qui est dépendant de la justice. C'est marcher sur la tête. Donc là, il y a un vrai problème. D'ailleurs, prenons l'intervention du président du groupe Horizon.
Donc Laurent Marcangeli.
Laurent Marcangeli. Il a bien dit des choses assez justes, d'ailleurs. C'est dit, la commission parlementaire ne peut absolument pas se mêler des affaires encore en cours de la justice. Elle ne peut canaliser la réalité du fonctionnement du système pénitentiaire et de ce qui est autour, y compris d'ailleurs du système judiciaire, et de faire des propositions à la suite de cela. Là, c'est du bon fonctionnement du législatif. Et c'était un des points positifs de l'intervention de Laurent Marcangel. Le pouvoir législatif ne se substitue pas au pouvoir judiciaire. Mais voir aujourd'hui, que ce soit à Paris ou que ce soit en Corse, parce qu'il y a des menaces, conditionner une décision politique à une décision de justice, c'est de faire du pouvoir judiciaire un pouvoir politique. C'est dramatique. C'est se paralyser soi-même et c'est sortir, alors pas par le bout qu'on pensait, de l'État démocratique. Nous sommes là dans une situation... Alors, sur les menaces, il faut quand même être parfaitement clair. Nous aimerions des prises de position de refus de ces menaces contre le président de l'exécutif de l'Assemblée corse qui viennent de partout, qui viennent des groupes d'opposition, qui viennent bien entendu de sa majorité, mais qui viennent aussi de sa nouvelle opposition nationaliste. Il est inadmissible que l'on fasse des pressions sur le président de l'exécutif. Il ne pourra pas y avoir de dialogue avec Paris, avec un président qui serait sous le coup de menaces, et si on caricature, qui même pourrait avoir des pressions concernant sa propre vie. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
Bah oui, c'est de ça.
Alors, comment un ministre de l'Intérieur pourra-t-il parler sereinement avec un président de l'exécutif, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, quand ce président de l'exécutif a des menaces de mort? Le premier travail du ministre de l'Intérieur, ça va être de protéger, bien entendu, le président de l'exécutif. Même s'il pense tout à fait autre chose que le président de l'exécutif, c'est le devoir de Gérard Darmanin de protéger le président de l'exécutif. Alors là,
oui, à condition qu'il l'accepte, puisque Simeone a dit déjà qu'il n'accepterait pas de protection.
Et comme il n'accepte pas de protection, mais il en a pris une. Il a embauché. L'Assemblée a embauché. La collectivité territoriale a embauché
des
services de sécurité. Ouais. Pourquoi pas? Mais c'est d'abord à l'État. Alors, est-ce que ça signifie que dans le cadre de l'autonomie, la sécurité va être aussi basculée dans l'autonomie? Et même pour l'autonomie d'un personnage politique aussi important que Jules Simeone?
Alors,
ça devient dangereux. Hein,
alors justement, Michel, vous avez raison, parce que moi je trouve, si vous voulez, que ce jeu d'ombre...
Bah, c'est un jeu d'ombre.
C'est un jeu d'ombre joue évidemment contre toute possibilité d'autonomie. Je ne parle même pas d'indépendance, parce que à ce moment-là, ce serait une guerre civile. Alors, on va où? Enfin, il faut démontrer, et je pense que c'est possible, et c'est la raison pour laquelle je pense que Gilles Simone et d'autres, il n'est pas tout seul, m'ont pris, et Laurent Marcangel, par exemple, dans son interview, ont pris la bonne démarche, c'est-à-dire une démarche à la fois responsable et d'apaisement. On va discuter, on va regarder ce qu'il est possible de faire, et on va essayer d'avancer pour la Corse et pour la Corse en prenant sur des textes, pas simplement sur des mirages et des mots. Je pense que c'est une bonne démarche j'espère que c'est possible, parce que ce serait quand même lamentable que tout ce processus, qui pourrait quand même être intelligent, qui pourrait être sérieux, qui pourrait être bénéfice, soit saboté par une décision de justice, des manifestations, des menaces par en dessous, des jeux politiques à l'Assemblée agités par je ne sais quel intérêt. Parce que c'est ça. Enfin, en Corse, on sait à peu près... Enfin, on sait beaucoup de choses quand même. Hein. On n'est pas complètement idiots ni sous-informés.
Ni sourds, ni aveugles.
Je trouve que c'est quand même là vraiment...
Mais en guise de conclusion, comment envisager l'émancipation de la Corse, des Corses? Encore une fois, dans ces conditions, est-ce qu'elle l'est vraiment souhaitée?
Alors, je pense qu'il y en a qui crient très fort, mais qui ne la souhaitent pas parce que c'est un fonds de commerce. Je pense qu'on peut le réaliser avec des projets. Ce qui manque sur l'autonomie, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, si vous voulez un plan d'autonomie de l'énergie, ce qui a été voté deux fois par la Corse, bah, il faut prévoir sa propre fourniture d'énergie et pas seulement par le gaz ou attendre de l'État. Je pense qu'il y a maintenant des méthodes modernes pour produire de l'énergie pour les 50 ou 100 ans à venir et que la Corse pourrait utilement se mettre à la pointe du progrès et imaginer un certain nombre de prototypes pour la production d'énergie parce que justement, comme ce sont des petites entités, j'ai écrit un article dernièrement là-dessus, j'ai vu par exemple, pour les villages de montagne, on n'est pas obligé de raccorder tout le monde dans les villages de montagne, on peut avoir sa propre production d'électricité à partir des biocarburants, du bois, des machins, etc. Il y a beaucoup de techniques, enfin le monde entier est investi là-dessus. Pourquoi pas en Corse? Pourquoi pas en Corse? On le fait en Norvège, aux États-Unis, en Savoie, à Nantes, en Vendée, à Marseille. Pourquoi pas? Si vous voulez, si vous avez des projets, ce n'est pas l'argent qui manque. Si vous n'avez pas de projet, l'argent manquera toujours.
Michel, pour conclure.
Oui, moi, le mot émancipation me gêne. Du développement de la Corse. L'émanciper de quoi? D'elle-même. D'elle-même. L'émancipation, ça veut dire devenir majeur, qu'on n'a plus besoin de tuteur. Alors, c'est-à-dire, c'est devenir responsable. Les deux exemples à prendre, c'est effectivement celui de l'énergie. Et s'il y a bien un domaine dans la situation actuelle de l'énergie, y compris d'ailleurs en France continentale, si on veut faire des économies d'énergie, il faut rapprocher la source d'énergie du consommateur. Et là, la Corse va retourner son étroitesse, parce que c'est une île, son étroitesse en termes de nombre de population, en un avantage. Traitement des déchets. Peut-on parler d'autonomie quand on envoie ses déchets à Toulouse ou à Marseille? Expliquez-moi. C'est pas possible. On se disqualifie. Alors que c'est faisable. Et c'est faisable parce qu'il faut passer sur des projets. Donc, bien entendu, c'est la question du développement de l'île, et c'est le besoin du développement, je dirais même, de la responsabilité de chacun des Corses, et même de l'Assemblée Corse. Mais ça ne se fera pas par... Auguste Comte appelait ça l'ère magique, c'est-à-dire quand le mot fait apparaître la chose. Autonomie, ça ferait apparaître l'émancipation. Ben non, autonomie ne fait pas apparaître l'émancipation et le développement. C'est le développement qui fera peut-être apparaître de l'autonomie.
Merci beaucoup Michel Vara, Laurent Dominati de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut !